CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30.
Bonjour, bonjour à tous, c'est Johan pour le mag de CFM, on est ensemble pour une petite demi-heure. Aujourd'hui dans ce mag, on vous propose un entretien, une interview réalisée par Jean-Claude Desfarges à propos de la ferme photovoltaïque qui va s'installer à Varennes. Il est avec le maire de Varennes, André Massat, président de la communauté de communes, et avec le représentant de la société qui va mettre ça en place. Et ensuite, un sujet culturel, puisque le Caylus Culture Club, c'est-à-dire Lou Andrea Lassalle, va présenter à la cuisine, centre d'art et de design à Nègrepelisse, son projet, que dis-je, sa performance, conciliabule caylusien, samedi 18 octobre, c'est à partir de 19h, dans la cour du château. Et elle nous raconte de quoi il sera question. Mais avant ça, petit détour par la playlist de CFM. Coldplay, un ciel plein d'étoiles, sky full of stars.
Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky. Cause you light up the path. I don't care. Go on and tear me apart. I don't care if you do. Ooh, ooh, ooh. Cause in the sky.
CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30.
Reportage interview réalisé par Jean-Claude Desfarges sur ces bonnes terres de Varin.
Oui, alors je me trouve à la mairie de Varin, présence de monsieur Alain Desvignes. Bonjour monsieur Desvignes, qui est président de la société Amarenco, qui vient nous présenter le projet de photovoltaïque sur la commune de Varin. Et de monsieur André Massat, maire de Varin, président de la communauté des communes.
Bonjour monsieur Desfarges.
Bonjour. Bon alors monsieur Alain Desvignes, présentez-nous votre société tout d'abord.
Donc Amarenco est un acteur dans le secteur photovoltaïque, spécialisé dans l'investissement et l'exploitation de centrales électriques à partir d'énergie solaire. La société a été créée un an et basée en Irlande et nous avons investi jusqu'à présent 50 millions d'euros en France. Voilà.
Très bien. Et votre projet sur Varin ?
Le projet sur Varin, en fait, le projet a été initialement développé par un acteur local ici, Société Iséo, du côté de Toulouse. Et nous avons collaboré ensemble afin de mener ce projet à bien au niveau du financement de la construction et de son exploitation.
Très bien. Monsieur Massat, ce projet démarre depuis 2008, je crois.
Oui, voilà, en 2008, Serge Gomez m'a présenté Pascal Colleoni, personne qu'il connaissait travaillant sur Toulouse dans des secteurs parallèles. Et depuis 2008, donc, nous avons essayé de voir comment pouvait aboutir ce projet, avec bien sûr toujours des difficultés administratives, des difficultés dues à l'implantation et à cause de la DREAL, entre autres, qui met des bâtons dans les roues parce qu'il y a des chauves-souris, donc on ne peut pas couper des arbres comme ça, puisque ça héberge des chauves-souris. Un projet au départ de 30 hectares est descendu à 12 hectares, ce qui est certainement préjudiciable à la fois pour l'économie de la commune de Varin. Toutefois, je dois reconnaître que j'ai été particulièrement bien aidé de par Madame la préfète Paulvet Montmasson, qui est venue sur le site, ainsi que le directeur de la DDA, et des préfets successifs qui ont fait accélérer, entre autres, une modification de la carte communale, car ce lieu était basé en centre de loisirs, pour passer en centre économique, que les permis de construire ont pu être de ce fait accélérés. Et donc la commune de Varin a été aidée donc, par les services administratifs et la préfecture en particulier pour que Iséo ait tous les éléments en main pour trouver ensuite un investisseur, car au départ je ne savais pas qu'Iséo allait chercher un investisseur, et c'est ce qui a bien sûr pris du temps, car ce n'est pas simple d'investir dans ce domaine-là. Et donc quand tout d'un coup on m'a dit, M. Gounin entre autres m'a dit, voilà, on a trouvé des investisseurs irlandais par l'intermédiaire de la société Amarenco, dont de ce fait j'ai été ravi d'accueillir donc de ce fait ces personnes, et je suis plus que satisfait qu'aujourd'hui on attaque ce chantier qui sera terminé dans des plus brefs délais, je crois.
Bon, alors parlez-nous du chantier, monsieur le directeur.
Le chantier donc démarre, en fait, a déjà démarré concernant le terrassement. Le chantier est prévu d'être achevé en décembre. Donc la centrale sera construite pour Noël. Et nous espérons que RDF n'aura pas de retard et sera prêt à mettre en route également fin décembre.
Donc la c'est une implantation au sol.
Exactement, c'est un projet d'une centrale au sol qui représente une puissance de 8 mégawatts. En termes de puissance installée. C'est une centrale qui va permettre de générer à peu près 10 gigawatt-heure par an, et donc ce qui fait à peu près l'équivalent de 2000 foyers, pour vous donner un peu une idée. Ça représente une économie également de 600 tonnes de carbone par an, ce qui veut dire à peu près 1 à 2 tonnes de CO2 économisées par jour.
Voilà. Donc au niveau économique, au niveau écologique, c'est une bonne affaire pour la commune.
Absolument.
Au niveau technique, nous avons en présence aussi David Lecouf. Alors parlez-nous techniquement, bonjour. Comment ça se passe, cette centrale ?
Donc là, on a un nombre de 33 000 de panneaux solaires.
33 000 panneaux solaires ?
33 000 panneaux solaires de 250 watts chacun.
Histoire de quelle grandeur chacun ?
Ils font 1 mètre sur 1,50 m à peu près, donc d'accord. 250 watts. Et on a 250 onduleurs, donc c'est des petits onduleurs qui seront placés dehors, donc sous les modules. Et ensuite, ces onduleurs sont connectés à des transformateurs, puis tout est revendu à ERDF, donc sur la commune de Varin.
Vous allez commencer à produire en fin d'année, donc 2014, vous commencez à vous brancher sur l'EDF au début 2015 ou dès 2014?
Non, l'idée, c'est de se connecter dès 2014.
Dès 2014.
Exactement.
Donc la production va commencer en 2014 et la revente d'électricité produite par ces panneaux photovoltaïques commencera dès à présent, quoi.
Dès que ERDF nous connecte, oui.
D'accord.
Tout à fait, voilà.
Bon. Au niveau économique, M. Bassat, qu'est-ce que ça va représenter pour votre commune?
Ben, y a une chose dont je suis sûr, c'est que puisque si c'est fini au 31 décembre de l'année en cours, ça veut dire que l'année 2015, nous aurons un loyer de 21 000 euros. Et donc, de ce fait, auprès, suite au bail amphithéotique que nous avons signé avec Varin Énergie, c'est-à-dire une filiale d'Iseo, et donc, de ce fait, repris, bien sûr, par Amarinco Solar. Donc, 21 000 euros, c'est sûr. Et après, comme je ne suis pas fin technicien à la matière, les IFER, les ceci, les cela, très certainement que nous devrions avoir des retombées intéressantes pour l'économie de la commune.
Un bonus?
Un bonus, bien sûr. Étant donné qu'il s'agissait de cailloux, ces cailloux où il y avait des sangliers et des chevreuils, bon, il est préférable d'avoir des panneaux photovoltaïques, un loyer de 21 000 euros, plus la suite que nous expliquera peut-être, car je suis sûr que Monsieur Couffe connaît effectivement en gros les rentrées économiques supplémentaires pour la commune de Varin.
Bon, donc concrètement, c'est une très bonne affaire pour vous, pour votre société et pour la commune.
Tout à fait. C'est vraiment ce qu'on appelle un petit peu en anglais le triple bottom profit, c'est-à-dire que ce sont des bénéfices qui sont à trois niveaux, un bénéfice écologique, environnemental, économique et social. On aura de l'emploi local ici, donc pendant la construction, on aura à peu près en période de pointe une cinquantaine de personnes. On a recruté des entreprises qui sont dans le tissu économique local, donc du côté de Montauban en l'occurrence, pour tout ce qui touche la sécurité. Je dirais que ce qui est vraiment intéressant sur ce projet, c'est qu'il n'y a aucun conflit avec l'agriculture, puisqu'il s'agit d'une carrière qui n'est plus utilisée depuis 1992, je crois. Mmh. Et donc, on valorise un site avec vraiment, je dirais, un beau projet sur un site qui ne pouvait plus être utilisé.
Vous nous parlez d'emplois locaux. Vous pouvez nous dire un peu plus sur ces emplois locaux?
Ça sera essentiellement sur la maintenance. Donc, ce qui se passe, c'est que une centrale solaire, comme toute centrale électrique, représente aussi, la nécessité de protection contre le vol, par exemple. Donc, vous aurez des personnes qui seront ici, qui vont s'occuper du gardiennage, qui vont s'occuper de la sécurité et qui vont pouvoir participer également à la maintenance techniques du site, qui vont vous avez un certain nombre de choses à faire, bien évidemment, pour que l'exploitation de la centrale fonctionne.
Très bien. Vous avez d'autres projets sur le local, ici, en région?
Alors, en région, ici, pas pour le moment. On est dans le sud-ouest, on a d'autres projets, donc un petit peu plus loin. Pour le moment, on est à la recherche active de nouveaux sites pour continuer dans ce domaine qui est prometteur pour la France.
Bon, donc l'opportunité de l'ancienne carrière de la Farge est une très bonne opportunité pour vous.
Absolument.
Au niveau Midi-Pyrénées.
Absolument, tout à fait.
Bon, je vous remercie beaucoup.
C'est moi.
Monsieur le directeur.
Merci beaucoup.
Et puis à bientôt.
À bientôt.
Monsieur Bassat, merci de votre accueil.
Merci. Il est clair que la réhabilitation de la carrière avait séduit la préfète à l'époque. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là dans les phases finales de réalisation de ce projet.
Bon,
j'en suis ravi.
Très bien, merci.
CFM, le MAG, tous les jours, 12h, 12h30.
Ça n'a aucune importance, vous savez qu'on peut très bien vivre sans la moindre espèce de culture. Ah oui. Ah, je suis formel sur ce point. Hein. Ah oui. Tiens, moi j'ai un ami qui s'occupe de la rubrique littéraire de plusieurs radios locales, radios libres dans la région, et il me disait, pas plus tard qu'à midi, il me disait, moi vous savez, si j'aurais lu tous les livres, je ne serais pas été beaucoup plus avancé pour causer dans le poste de radio.
Au château de Nègrepelisse, à la cuisine, on a le 18 octobre, toujours dans la foulée des événements, des bruits de frigo, des résidences, des expositions et des choses comme ça, on a une visite plus performance, Conciliabule Caille-Lucien, C'est le samedi 18 octobre de 18h30 à 20h30 et il est question de l'investissement dans la création d'une œuvre collaborative recréant un événement festif à Caylus. Pensez bien que pour en parler, il vaut mieux demander directement à l'artiste qui a organisé ça, qui est là, Lou-Andréa Lassalle, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous pouvez nous redire en quoi ça consiste, ce travail ?
Alors, à la base, c'était venir créer à Caylus, avec les habitants, une sorte d'événement folklorique. En fait, en reprenant la culture qu'il y a aujourd'hui, les différentes communautés, les différents folklores, en se basant sur l'histoire, comme sur le possible futur de Caylus, comme sur les différentes populations, les anciens, les nouveaux, tout ça. Recréer, en fait, un événement typiquement caylusien.
Donc le lien avec le bruit du frigo, c'est le concept d'identité remarquable.
Exactement, c'est le principe de qu'est-ce que c'est que l'Occitanie, non, comment on appelle ça ?
Ah ben l'Occitanie.
Le Quercy-Rouergue.
En fait, qui sommes-nous ?
Voilà, c'est ça en gros. Et qu'est-ce que c'est qu'une identité ? Qu'est-ce que c'est qu'une région ? Qu'est-ce que c'est qu'un département ? Et qu'est-ce que c'est qu'un village aujourd'hui en France, voilà.
Alors ça interpelle parce qu'en général on a des traditions qui remontent à la nuit des temps, comme on dit, mm-hmm. avec de la symbolique. Je sais pas, moi je pense au carnaval par exemple, on remonte au Moyen-Âge avec des choses comme ça. Des traditions qui se perpétuent, on ne sait pas forcément d'où elles viennent, et puis peu importe, c'est voilà. Festif. Comme Halloween, les enfants, eux, ils se marrent, peu mm-hmm. leur importe que ça soit une fête qui ne soit pas d'ici, bon voilà. Alors là, on est quand même avec des masques.
Oui, on est avec des masques qui sont plutôt, on va dire, tribales, plutôt inspirés des masques africains, et qui se recouvrent du symbole ils sont tricolores, donc bleu, blanc, rouge. Donc évidemment, le symbole, le drapeau français par excellence. Et en plus, ils sont ornés du nom de Caylus avec la typographie Coca-Cola. Ce qui mêle en fait plusieurs problématiques qui sont pour moi assez pertinentes aujourd'hui. Donc qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle la mondialisation, la globalisation, la perte d'identité, et aussi ce que c'est que l'exotisme en fait aujourd'hui, où on a accès à toutes les images, où chacun va reconnaître des symboles qu'il n'aurait jamais vus en vérité, mais qui sont hyper présents. Qu'est-ce que c'est que le patrimoine, du coup, dans ces conditions-là ? Qu'est-ce qui reste de l'identité d'un pays ? Et tout en utilisant un peu cette peur qui amène aussi donc un repli sur soi, un régionalisme, un communautarisme et un nationalisme, un peu mêler les deux comme ça graphiquement et créer une tension où j'ai pas spécialement de réponse, j'ai pas de revendication spécialement, mais c'est l'idée de créer un débat en fait. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui notre position en tant que touriste, en tant qu'habitant, en tant que français ou étranger, c'est un peu toutes ces questions.
Le regard de l'artiste vient questionner en fait. Uh-huh. Et en même temps, il y a des propositions graphiques, mine de rien,
oui.
Parce que vous avez contribué à élaborer des masques qui vont retenir l'attention.
C'est ça, exactement. Enfin, j'ai pris plusieurs... Donc plusieurs motifs en fait de masques qui, je disais, africains, mais il y a aussi de la Nouvelle-Guinée, il y a aussi du Japon, il y a aussi d'ici d'ailleurs, de la faune d'ici, et je les ai remis ensemble, et après ça crée quelque chose qu'on a l'impression de reconnaître ou de connaître ou il y a tout ça là-dedans.
Vous avez déjà fait une première prestation contributive mm-hmm. au château de Caylus,
oui.
Avant l'été. Il y avait eu des ateliers d'écriture pour essayer de retrouver le fil conducteur finalement de cette tradition,
voilà.
Pourquoi pas ?
Exactement. En fait, pour bien intégrer cet événement au village de Caylus, il fallait lui créer une histoire, il fallait lui créer une sorte de mythe et pour qu'il prenne sens au sein du village. Du coup, on a fait des ateliers d'écriture avec Michel Vessier sous la direction de l'APIC. Et on a mis en fait sur table plusieurs possibilités et on est ressorti une principalement où il est question d'un sanglier garou qui serait un seigneur local qui aurait existé sur Caylus et qui aurait enfanté une femme qui serait allée accoucher dans le lit de Tabourac qui est maintenant une source asséchée. Et donc cette jeune fille a plusieurs péripéties, il y a une histoire de mariage, une histoire de noyade dans le lac de la Barthe, et toute cette ce conte-là va donner justification à certains événements, certains voilà, attributs aussi de cette histoire.
C'est assez original l'idée d'actualiser un rite folklorique, mm-hmm. en se disant, après tout, les historiens ne viendront pas nous dire des choses. Mais j'interrogeais Thierry Desjean de la Pigue l'autre jour, je me dis, mais il y a des gens qui sont convaincus, dur comme fer, que les contes qu'on a écrits sont les vrais, des vraies légendes.
Oui, on m'a dit même qu'il y a un conte qui avait été repris dans un livre comme conte traditionnel, alors qu'en fait, c'est la Pigue qui l'avait écrit, mais après, enfin... Pourquoi pas continuer le mythe, et le mensonge n'est pas tellement mauvais que ça.
Bon, finalement, c'est retrouver un patrimoine que d'inventer une tradition.
C'est ça, exactement.
Et alors tout ça va aboutir au quoi, avant le printemps?
Oui,
parce qu'on ne sait pas quelle était la date traditionnelle.
Non, on ne sait pas encore quelle date était traditionnelle. Et puis, en fait, je me suis lancée dans cette aventure avec beaucoup, beaucoup d'engouement. Et je me suis rendu compte à quel point aussi, pour un artiste, il était compliqué de mettre en place tout un réseau social, toute une contribution. Du coup, je prends plus de recul et je donne pas de date fixe parce que je sais jamais comment je vais vraiment avancer. Donc il se passe ça à Kélus, des fois il va y avoir des choses. J'invite les gens à venir me rencontrer, à qu'on en discute et tout ça. Mais moi je continue mon bout de chemin sans trop donner de références concrètes parce que je m'y perds un peu là-dedans.
Bon, en fait, vous présidez l'association Kélus Culture Club. Mm-hmm. Vous avez un lieu où on peut vous contacter, un numéro où on peut vous joindre.
Oui, 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 exactement. Alors, le numéro, c'est 06 08 04 91 50. Et donc, moi, je suis Lou Andrea et donc, je suis la présidente de l'association Kélus Culture Club qui est amenée à faire des ateliers, des événements, des choses ponctuelles. J'invite aussi des artistes d'un peu partout en France et même à l'étranger, des fois, à venir participer avec moi à certains projets, comme cet été, en fait, sur le château de Kélus, où on a eu deux jeunes étudiants qui sortaient de l'école de cinéma de Rennes, qui m'ont aidé dans la mise en place, la scénographie, la régie de l'événement. J'avais un compositeur qui s'appelle Nicolas Lemay, qui fait toute l'ambiance musicale, et un ami qui est spécialiste des projets culturels, François Vergniaud, qui est venu m'aider aussi sur l'accompagnement, en fait, de tout ça et l'organisation.
Donc vous avez gardé des traces de tout ce travail?
Oui. On a une vidéo qui est en cours de montage, plusieurs photos, et puis aussi il y a le témoignage des habitants, qui pour moi est un peu plus important en fait que toutes ces traces, qui est certaines personnes ont vu le château, ont assisté à cet événement et peuvent en parler, et cette rumeur est plus importante pour moi que la plupart de tous les médiations ou communications possibles. Parce que c'est avant tout pour les habitants que je crée ce projet. Et donc là, ce qui va se passer à Nègrepelisse, donc là, c'est un peu plus institutionnel, donc c'est à La Cuisine, le centre d'art, c'est sur une invitation de Valentine Boé. Et donc là, ça va être amené le Kélus Culture Club à Nègrepelisse. Donc je me suis demandé qu'est-ce qu'ils vont faire. Au château, il y avait le comte, il y avait les gens du village, c'était assez, on va dire, familial quelque part. Et là, à Nègrepelisse, donc c'est un peu une présentation de qu'est-ce que c'est que ce Kélus Culture Club. Donc ça va être une sorte de cérémonie d'intronisation où on va amener plusieurs références d'un peu partout. Il va y avoir une édition qui va être distribuée, qui est un travail que j'ai fait avec un graphiste qui s'appelle Stéphane Rouet. Et en fait, on a communiqué par dessin pour créer un écusson, pour créer une sorte d'armoirie à ce Kélus Culture Club. Donc l'édition sera donnée. On a un chant aussi qui a été écrit par Romain Roanne et qui va être mis en musique par Élodie Tellier et qui va être donc chanté par les performeurs. Et on a peut-être des costumes qui sont en cours de gestation avec l'association Box Relais. Et voilà, il y aura donc il y a 8 acteurs et il y a toute une performance qui en fait donne une sorte de spectacle de possible rituel d'initiation à, comment on peut dire ça, à l'érection d'un bout de monument.
Si ça vous intéresse, vous pouvez aller consulter les images et même vous pouvez devenir ami avec Kélus Culture Club sur sa page Facebook. Mm-hmm. Et c'est l'occasion d'aller voir le travail qui a déjà été réalisé il y a quelques... pose de modèle, et c'est pas triste. Et vous pouvez prendre contact directement sur ce réseau en disant « Ah, moi, ça m'intéresse, est-ce qu'on peut se voir, à quelle heure, où ?» Tout ça, très bien. Merci, Louane Réan.
Merci, Joanne.
Le mag du Kerserouergue, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même punition. Ciao, ciao. Passez une bonne après-midi à l'écoute des programmes de CFM.